actifs et être utile à chacun. La Caisse d'épargne Île-de-France, une banque responsable, engagée au service de sa région.
Il est 15h sur Europe 1. Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est un véritable bras de fer qui est engagé entre les étudiants pro-palestiniens mobilisés à Sciences Po Paris et entre la direction du campus, la direction qui menace de renvoyer les étudiants qui occupent les locaux. Ils sont une soixantaine dans le bâtiment principal, des étudiants pro-palestiniens qui réclament la fin des collaborations entre Sciences Po et les entités jugées complices de l'oppression du peuple palestinien. Sarah fait partie des manifestants.
Notre université ne peut pas se permettre de rester silencieuse et de ne pas poser les termes. On ne parle même pas d'affrontement d'idées ou de quoi que ce soit, on parle de droit international pur et dur, ce qu'on nous enseigne ici. Et c'est dur de voir notre université qui ne met pas les mots sur ce qui se passe. Au-delà de ça, il y a quand même eu aussi une forte répression envers les voix pro-palestiniennes sur le campus. Ça inquiète aussi par rapport à la liberté de manifester, par rapport à la liberté d'être activiste à Sciences Po. Il n'y a pas de collectif, il n'y a pas d'association, on est sur quelque chose qui est autogéré. Ça veut dire qu'on parle de minorité agissante souvent, mais ce n'est pas le cas. Énormément d'étudiants qui se sentent concernés par ce qui se passe et c'est pour ça que l'une de nos premières demandes c'est d'organiser une rencontre entre l'ensemble du corps étudiant qui veut y participer et l'administration.
Les revendications des étudiants de Sciences Po Paris font écho à celles qui agitent les campus américains, notamment celui de Columbia à New York qui a des cursus en commun avec Sciences Po Paris. La direction de Columbia a décidé ce matin de reporter l'évacuation des étudiants. Elle veut poursuivre les négociations avec les collectifs pro-palestiniens. La France attend le verdict. Les agences de notation Fitch et Moody's doivent se prononcer dans la soirée sur la qualité de la dette française. Une dégradation de la note n'aurait à ce stade pas beaucoup d'impact sur les marchés. Gérald Darmanin soutient les maires qui instaurent des couvre-feux pour les mineurs de 13 ans, des maires jugés tout à fait raisonnables par le ministre de l'Intérieur. Un couvre-feu a été instauré à Béziers dans certains quartiers. Ce sera le cas aussi bientôt à Nice pour lutter contre la délinquance des mineurs. À 6 semaines des européennes, le Rassemblement national continue de creuser l'écart selon le baromètre Opinionway pour Europe 1, CNews et le JDD avec 30% d'intention de vote. Le RN compte 12 points d'avance sur la liste Renaissance de la majorité présidentielle. Attention, si vous prenez le train en direction de l'Est, de nombreux retards sont enregistrés sur l'ensemble de la ligne TGV après une rupture de caténaire au niveau de Châlons en Champagne. Des retards de 20 minutes à 2 heures. Et puis, 6000 forces de l'ordre seront mobilisées pour l'arrivée de la flamme olympique le 8 mai à Marseille, le même dispositif que celui déployé pour la visite du pape en septembre dernier. La flamme olympique qui va être remise à 17h30 aujourd'hui aux organisateurs français. Elle embarquera ensuite à bord du Belém pour rejoindre Marseille. La patineuse française Gabriela Papadakis et l'ancienne nageuse paralympique Béatrice Hess porteront la flamme lors des derniers mètres du relais en Grèce.
Europe 1.
15h03 sur Europe 1, historiquement vôtre, c'est maintenant.
15h, 16h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Merci Quasimodo.
J'ai appris que dans la vie gouvernementale, comme dit Jacques Dutronc, il y a des cactus.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h et pendant une heure. Je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi parfois en passant sous les radars. Des personnages mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée ou des événements marquants et que j'ai choisi de vous raconter.
Et aujourd'hui de 15h à 16h sur Europe 1, c'est une poétesse de la Renaissance qui a fait couler beaucoup d'encre que Stéphane Bern nous fait découvrir dans son récit du jour.
Cet après-midi, je vous raconte celle qu'on a longtemps appelée la Belle Cordière, une Lyonnaise aux écrits osés dont la vie est entourée de tant de mystères que l'on en est même parfois venu à douter de son existence, bien que ses œuvres ont été publiées, où la véritable histoire de Louise Labbé, la légende de la poésie. En quoi l'œuvre de Louise Labbé est-elle féministe avant la lettre? Pourquoi a-t-on remis en question son existence? Qui étaient les femmes de lettres du XVIe siècle? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir sa biographe, maîtresse de conférences en littérature française de la Renaissance à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Bonjour, Élise Reichenbach.
Bonjour.
Pour commencer, intéressons-nous à la représentation de Louise Labbé qui figure en couverture de la biographie que vous lui avez consacrée. Quelle image de son modèle l'artiste a-t-il voulu donner ?
Alors, il s'agit d'un portrait gravé qui est l'œuvre de Pierre Verriot, hein, un graveur qui officie régulièrement à Lyon à l'époque. Donc, elle est de face aux trois quarts. Elle regarde le spectateur et elle est représentée richement vêtue, hein, avec une très belle robe ornée de galons et de pierreries. Sa coiffure elle-même est élégante, hein, avec un chaperon et une longue queue noire qui marque toute sa dignité. C'est bien le portrait ici d'une autrice qui est présenté et non celui d'une simple dame. Traditionnellement, hein, dans ce genre de portrait, on a souvent le poète qui est observé par la dame qu'il chante. Et dans ce cas particulier, la dame ne regarde pas le poète. Elle regarde bien le spectateur et affirme ainsi sa posture d'autrice.
Mais est-ce qu'il existe d'autres représentations de Louise Labbé ?
Oui, on a un autre portrait qui est passé à la vente il y a quelque temps, hein, qui est l'œuvre de Nicolas Denisot, un peintre et également poète de ce qu'on appelle la Pléiade. Et c'est une huile, hein, sur toile de mémoire qui la représente d'une toute autre manière. C'est la Louise Labbé telle qu'elle est figurée dans les œuvres, donc la Louise Labbé fictive, si je puis dire. C'est une jeune femme, blond vénitien, représentée comme Jeanne d'Arc en guerrière.
Vous avez donc publié Louise Labbé, La rime féminine, aux éditions Calip. On va continuer à en parler ensemble, Élise Reichenbach, juste après mon récit.
Europe 1,
15h-16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Qui est véritablement Louise Labbé, la poétesse du XVIe siècle, que l'on surnomme parfois la Belle Cordière ? Est-elle réellement une femme de lettres ? Est-elle une courtisane, comme beaucoup l'ont prétendu ? Y a-t-il méprise quant à la paternité de ses œuvres ? Au sujet de Louise Labbé, la légende a souvent pris le pas sur la réalité et les récits romanesques sur les faits historiques. Il faut dire que son existence lointaine est rendue trouble par de nombreuses zones d'ombre que les archives ne parviennent pas toutes à combler. Mais il est une chose certaine. En 1555, dans la puissante ville de Lyon, l'ancienne capitale des Gaules, où convergent alors les riches marchands et les beaux esprits européens, un ouvrage littéraire paraît sobrement intitulé « Œuvre » et signé de Louise Labbé, lyonnaise. Qui est donc cette femme pour écrire des lignes jugées dignes d'être publiées ? Et comment a-t-elle obtenu le privilège de voir ses œuvres ainsi éditées ? Au temps de l'humanisme importé de l'Italie voisine, une place est peu à peu accordée aux femmes dans le paysage artistique, musical et littéraire. Et certaines voix que l'on qualifierait aujourd'hui de féministes s'élèvent sur le papier. Louise Labbé en est une. Dans l'unique ouvrage de la poétesse lyonnaise, on peut lire ces vers passionnés qui nourriront la légende d'une écrivaine aux mœurs légères.
« Baise-moi encore, rebaise-moi et baise. » Donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux, je t'en rendrai quatre plus chauds que braise.
Premier quatrain célèbre du sonnet 18 de Louise Labbé, il décrit des baisers enflammés qu'il est tentant de voir dessinés à un amant de la poétesse. Le plus grand plaisir qui soit après amour, c'est d'en parler, a en effet écrit Louise Labbé dans son débat de folie d'amour, l'un des autres textes figurant dans l'ouvrage. En réalité, rien ne prouve que l'autrice parle ici en son nom. Pour autant, les théories de l'universitaire française Mireille Guchon, qui suggère que les textes signés de la Lyonnaise seraient en fait l'œuvre d'un collectif d'hommes et que Louise Labbé ne serait qu'un prête-nom, semblent contredites par les recherches récentes. Selon sa consoeur, Élise Reichenbach, maîtresse de conférences en littérature française de la Renaissance et qui est donc notre invitée cet après-midi, l'idée que Louise Labbé ne serait qu'une créature de papier ou tout simplement une imposture est loin d'être nouvelle. Le milieu social de l'écrivaine, tout comme son statut de femme, ont nourri au fil du temps les suspicions à son égard. Et c'est aussi à cette part de doute que Louise Labbé doit en partie sa notoriété et sa légende.
Et c'est justement ce que nous allons découvrir ce vendredi après-midi sur Europe 1 avec Stéphane Bern qui, vous l'avez compris, nous raconte Louise Labbé, la légende de la poésie. C'est dans Historiquement Vôtre. Excellent après-midi sur Europe 1.
Europe 1, 15h-16h, Historiquement Vôtre.
Mmh. tout, c'est si bon.
Rouge des Prés.
De chez le boucher.
En boucher.
En faux filet.
En anglais.
Dans un étoilé.
Dans un troquet.
En pavé.
En chili con carne.
Grillé.
Mariné.
Rissolé.
En gelé.
Fumé.
Parfumé.
Mijoté.
Snaqué.
Du Loiret.
De Vendée.
De Franche-Comté.
Et sans compter.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Il était une fois, un prince et sa bien-aimée en quête d'une idée pour le dîner. Le nez dans le frigo, ils virent les endives Origine France à 1,95€ le sachet de 1 kg chez Aldi et purent ainsi se lancer dans la préparation de petites endives braisées. Eh, voilà, hein, ça fait le job comme on dit. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 27 avril. Info sur aldi.fr.
Chez But qui dit promo dit
envie de changer de déco.
Voilà, c'est ça.
En ce moment, But vous fait 20% de remise des 3 produits achetés sur l'ensemble de l'univers déco. Oui, moins 20% pour décorer toute votre maison.
Voilà, voilà.
Sélection produits et conditions de l'offre en magasin et sur but.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal, c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Europe 1,
15h-16h,
historiquement vôtre.
Merci de nous rejoindre, bienvenue sur Europe 1. Stéphane Bern, aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, nous raconte Louise Labbé, la légende de la poésie, ou le destin d'une poétesse lyonnaise de la Renaissance française dont la vie est entourée de tant de mystères que l'on en est même parfois venu à douter de son existence.
Si une chercheuse remet aujourd'hui en question le fait que Louise Labbé a réellement été capable d'écrire, c'est principalement lié au fait qu'elle est une femme. La date exacte de sa naissance est inconnue, mais on la situe généralement entre 1516 et 1524, autrement dit, au début du règne de François Ier et à l'aube de la Renaissance française. Louise Labbé le revendique. Elle est lyonnaise. Et Lyon, je vous le disais, est au XVIe siècle une ville qui rayonne et concentre une population venue de toute l'Europe. C'est aussi une cité où l'imprimerie se développe alors considérablement et où se croisent les plus belles plumes de l'époque. La mode est alors aux vers inspirés de Pétrarque, poète florentin du XIVe siècle et figure du courant humaniste. Louée par Clément Marot, celui que l'on surnomme de son temps le prince des poètes françois, Lyon attire également Rabelais, qui publie Pantagruel en 1532, et Gargantua, 2 années plus tard. À Lyon comme ailleurs, cependant, pour pouvoir entamer une carrière littéraire, encore faut-il savoir lire et écrire. Et c'est là que le bât blesse. Louise Labbé est fille de Cordier. Elle sera bientôt épouse de Cordier. Et l'on présume dès lors qu'elle n'a pas reçu l'éducation nécessaire à toute femme de lettres. Son père, Pierre Charly, dit Labbé, fabrique et fournit la ville en cordes pour lui permettre de mener son commerce sur les eaux du Rhône et de la Saône. C'est une activité fructueuse qui fait de lui certes un notable, mais ne présage pas de la bonne éducation de sa famille. Le père de Louise Labbé et son mari, Edmond Perrin, qu'elle épouse aux alentours de 1545, sont même tous deux probablement illettrés. Alors pourquoi et comment Louise Labbé aurait-elle pu apprendre à lire et à écrire en français comme en italien? Plusieurs hypothèses ont été émises. L'une suggère par exemple que les enfants de Pierre Charly auraient pu avoir un précepteur. Une autre soutient que Louise Labbé aurait peut-être reçu son éducation dans le couvent de la Déserte, situé dans l'actuel quartier lyonnais de la Croix-Rousse, auprès d'une religieuse qui aurait remarqué les prédispositions de la jeune fille. Alors, la femme de lettres et la cordière ne font-elles qu'une ? Évoluant dans un milieu de marchands, Louise Labbé elle-même est régulièrement nommée cordière dans les documents d'archives qui ont été retrouvés. Et il est avéré qu'elle prenait part au commerce de son mari en véritable femme d'affaires et faisait même des placements financiers en son propre nom. Artisanat ne rime donc pas avec pauvreté, au contraire. Et un événement historique prouve même la qualité de la famille de Pierre Charly au milieu du XVIe siècle. Lorsque le nouveau roi Henri II, succédant à son père François Ier, entre solennellement dans Lyon avec Catherine de Médicis en 1548, l'un des frères de Louise Labbé participe au combat de gladiateurs organisé pour fêter l'événement. l'ancienne capitale des Gaules, qui accueille son nouveau souverain dans des décors somptueux inspirés de l'Antiquité, multiplie ainsi des spectacles en son honneur, et François Charly en est l'un des participants, trié sur le volet. Il semble que Louise Labbé ne gravite donc pas si loin des hautes sphères de la ville. Mais plus important encore, elle ne demeure pas loin des rues où s'écrivent certaines des plus glorieuses pages de l'histoire de Lyon, celles du quartier des imprimeurs. Après son mariage, la poétesse a en effet quitté la rue de l'Arbre Sec, où elle vivait avec son père, pour s'installer avec son époux Edmond Perrin, rue Notre-Dame de Confort, un peu plus bas sur la presqu'île, entre l'actuelle place des Jacobins et l'Hôtel Dieu. Dans son nouveau lieu de résidence, elle ne se trouve désormais plus qu'à quelques pas de la rue Mercière, de ses ateliers où les presses à caractère mobile fonctionnent à plein régime et des boutiques des nombreux libraires lyonnais. Cette proximité a certainement facilité la publication de ses œuvres. Louise Labbé s'est sans doute promenée son manuscrit à la main dans ce quartier, au cœur de la cité où se croisent alors des grands noms de la littérature renaissance, comme le renommé Rabelais ou encore les poètes français Maurice Sèvres et Charles Fontaine. Aux côtés des auteurs, les imprimeurs y ont aussi gravé leurs noms dans l'histoire de la littérature française. Claude Nourry a publié à Lyon la première version du Pantagruel de Rabelais quelques années plus tôt. François Juste, Étienne Dolet et l'Allemand Sébastien Griff y ont tous trois imprimé des livres de Rabelais et de Marot. Et en 1555, c'est Jean de Tournes qui édite l'ouvrage de Louise Labbé. Un imprimeur qui, sentant le vent tourner et le beau siècle s'ouvrir aux dames, a choisi de donner leur chance aux femmes de lettres.
Et restez bien avec nous sur Europe 1, puisque Stéphane Bern, dans un instant, nous raconte la suite du destin de Louise Labbé, la légende de la poésie. Le temps d'écouter un peu de musique ce vendredi après-midi et ce titre iconique de David Bowie, extrait de son 12e album sorti en 1977. David Bowie, voici Heroes sur Europe 1. Bowie sur Europe 1 avec Heroes, extrait de son 12e album éponyme sorti en 1977.
Europe 1, 15h-16h,
Historiquement Vôtre.
Et sur Europe 1, votre vendredi après-midi se poursuit avec Stéphane Bern dans Historiquement Vôtre. Stéphane Bern nous raconte la vie de la mystérieuse Louise Labbé, poétesse célèbre de la Renaissance, dont le métier de cordière a souvent été mis en opposition avec sa réputation d'écrivaine. Si on ignore où Louise Labbé a appris à lire et à écrire, on sait en revanche qu'elle a publié ses œuvres chez l'imprimeur lyonnais Jean de Tournesse en 1555.
Au moment de la publication de ses œuvres, plusieurs éléments suggèrent que Louise Labbé est déjà connue. Selon notre invitée, la spécialiste Elise Reichenbach, le terme d'œuvre, employé seul et au pluriel en guise de titre d'un ouvrage, est encore rare à l'époque et signe de la grandeur de l'auteur. Plus évocateur encore, Louise Labbé a fait une demande en son nom pour obtenir un privilège du roi, c'est-à-dire une protection qui garantit alors à l'auteur, au libraire ou à l'imprimeur, de conserver le monopole de publication de l'ouvrage concerné. Louise Labbé a financé et obtenu ce privilège le 13 mars 1555 et il en est fait mention au début du livre. À la suite des textes de la poétesse sont également joints les écrits de divers poètes, des hommages de la part de plusieurs écrivains qui prouvent la notoriété de Louise Labbé. Des poèmes composés en français, en italien ou même en grec, dont on ne connaît pas avec exactitude les auteurs, mais qui chantent tous les louanges de la femme de lettres. L'un d'eux fait l'éloge de sa beauté et de ses talents musicaux dans une langue encore très compréhensible aujourd'hui. Louise étant gracieuse, étant belle, Louise à tout étant bien avenante, Louise à l'œil de si vive étincelle, Louise à face au corps tant convenante, de si beau port si belle et séduisante, Louise à voix que la musique avoue, Louise à main qui tend bien au luth joue, Louise à tant ce qu'en tout on prise, que je ne puis que Louise ne loue, et si ne puis assez louer Louise. Dans un registre tout aussi flatteur, écoutez ce madrigal italien traduit ici en français. Ainsi mon cœur pour vous, madame, a tant brûlé en ce premier jour où je vous ai contemplé qu'aussitôt j'ai été vraiment persuadé que ce feu ne pourrait plus jamais augmenter. Mais en vous, la beauté augmentant d'heure en heure, je sens venir en moi encore plus d'ardeur. Si elle continue à brûler tant soit peu, j'en serai tôt réduit à n'être plus que feu. Écrit par des hommes, ces hommages ne prouve pas seulement avec lyrisme la réputation qu'avait déjà acquise Louise Labbé en 1555. Ils font aussi office de caution devant la prémunir des attaques et des suspicions, celles que l'on réserve aux femmes qui osent se dévoiler dans l'espace public. La belle cordière semble d'ailleurs s'en excuser par avance auprès de ses lectrices dans les premiers vers de sa troisième élégie.
« Quand vous lirez aux dames lyonnoises à ces miens écrits, plein d'amoureuses noises, que mes regrets, ennuis, dépit et larmes m'auraient chanté en pitoyable carme, ne veuillez pas condamner ma simplesse et jeune erreur de ma folle jeunesse. Si cette erreur, mais qui, dessous les cieux, se peut vanter de n'être vicieux ?»
Louise Labbé ne craint pas d'exposer ses vers amoureux et elle appelle la noble Clémence de Bourges, à qui elle dédie son ouvrage ainsi que toutes les autres femmes qui la liront, à suivre son exemple.
Étant le temps venu, mademoiselle, que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines. Il me semble que celles qui ont la commodité doivent employer cette honnête liberté que notre sexe a autrefois tant désirée à apprendre et montrer aux hommes le tort qu'ils nous font en nous privant du bien et de l'honneur qui nous en pouvait venir.
De cette épître à Clémence de Bourges, Louise Labbé fin la modestie que l'on attend d'une plume féminine pour mieux prier ces dames d'oser concurrencer les hommes dans les domaines intellectuels et de ne pas s'astreindre aux tâches traditionnellement réservées à leur sexe.
Ayant passé partie de ma jeunesse à l'exercice de la musique, et ce qui m'a resté de temps l'ayant trouvé court pour la rudesse de mon entendement, et ne pouvant de moi-même satisfaire au bon vouloir que je porte à notre sexe, de le voir non en beauté seulement, mais en science et vertu passer ou égaler les hommes. Je ne puis faire autre chose que prier les vertueuses dames d'élever un peu leurs esprits par-dessus leurs quenouilles et fuseaux.
Une telle audace de la part des femmes ne ferait, selon elles, qu'accroître l'application des hommes.
Outre la réputation que notre sexe en recevra, nous aurons valu au public que les hommes mettront plus de peine et d'études aux sciences vertueuses, de peur qu'ils n'aient honte de voir précéder celles desquelles ils ont prétendu être toujours supérieurs quasi en tout.
dans l'imprimerie de Jean de Tourne, alors située rue Raisin à Lyon et reconnaissable à son enseigne représentant deux vipères qui se mordent la queue, ces quelques pages de Louise Labbé seront bientôt remises sous presse. En 1556, il réédite en effet ses œuvres légèrement corrigées, ce qui laisse supposer que la précédente édition s'est bien vendue. Bien qu'elle ne soit pas la première femme à être publiée dans le royaume de France, un tel succès ne peut évidemment qu'augmenter le mystère qui entoure cette belle cordière lettrée.
Et un mystère qu'on nous dévoile cet après-midi sur Europe 1. Stéphane Bern nous raconte la suite du destin de Louise Labbé dans Historiquement Vôtre, du lundi au vendredi de 15h à 16h sur Europe 1.
Bonjour, c'est Laurent Mariotte.
Europe 1, la table des bons vivants.
Une vague de froid a traversé le pays. Quel impact sur les futures récoltes et les vignes? On en parle avec nos agriculteurs. La chef Stéphanie Lequellec nous rejoint pour le plat du jour. Ancienne candidate et aujourd'hui jurée de l'émission Top Chef, nous profitons de sa présence pour passer les concours de cuisine à la casserole. Des petits pois, du tarama, de jolis vins, il ne manque plus que vous.
La table des bons vivants.
Rendez-vous demain de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Jardiland célèbre son jardiversaire. Jusqu'au 5 mai, c'est la fête en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et listes des magasins participants sur jardiland.com.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez Savazza et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à demain, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1536 euros.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Quand vous avez un brique de glace, ça vous paraît compliqué à gérer? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Une série de crimes hors normes. Un réalisateur fou retiré dans ses montagnes. Une étudiante en cinéma trop curieuse. Pour l'inspecteur Servaz, l'horreur vient d'entrer en scène. Découvrez Un œil dans la nuit, un thriller glaçant de Bernard Minier aux éditions Pocket.
Europe 1, le journal permanent.
15h27 sur Europe 1, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, Stéphane Bern dans Historiquement Vôtre nous raconte Louise Labbé, la légende de la poésie.
Mais juste avant, retour dans le présent avec le journal permanent et le rappel de l'actualité de ce vendredi 26 avril. Et c'est avec vous, Émilie Dèze.
De 20 minutes à 2 heures de retard sont à prévoir. La circulation des TGV entre Paris et l'Est de la France est complètement coupée après une rupture de caténaire au niveau de Châlons en Champagne. Les TGV doivent se détourner vers la ligne classique. Le courant devrait être rétabli dans l'après-midi. Le blocage de Sciences Po Paris se poursuit. Des dizaines d'étudiants du comité Palestine ont même passé la nuit sur place. Rima Hassan, la candidate insoumise aux européennes, est venue les soutenir. Émeric Caron aussi. Le débat, oui. Le blocage, non, tranche la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Aux États-Unis, le mouvement pro-Palestine a gagné tous les campus universitaires des manifestants évacués manu militari par la police. Fitch et Moody's vont-elles de nouveau baisser la note de la France? Ces deux agences de notation vont donner dans la soirée leur avis sur la santé financière du pays. La dette française dépasse les 3 000 milliards d'euros et atteint désormais 110,6% du PIB français. À un mois et demi des européennes, le RN fait toujours la course en tête avec 30% d'intention de vote selon le baromètre Opinionway pour Europe 1, CNews et le JDD. C'est un point de plus que la semaine dernière. La liste Renaissance était 18% des voix, celle du Parti Socialiste à 13%. Et puis du foot avec l'ouverture ce soir de la 31e journée de Ligue 1. Montpellier reçoit Nantes, coup d'envoi de la rencontre à 21h. C'était Émilie Dès sur Europe 1, retour de l'info dès 16h, juste avant Sophie et les copains.
Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, la suite sur Europe 1 avec Stéphane Bern qui nous raconte l'histoire de la célèbre poétesse de la Renaissance, Louise Labbé, fille et épouse de Cordier. Elle a pourtant fait publier ses œuvres en 1555 et appelé ses lectrices à ne pas s'interdire de concurrencer les hommes sur le plan intellectuel.
Avant elle, d'autres femmes ont marqué la littérature française de leur empreinte. Christine de Pizan, au tournant du XVe siècle, déjà vivait de sa plume. D'origine italienne, elle était entre autres philosophe et poétesse et signait des textes en français sur la condition des femmes au Moyen-Âge, notamment des veuves. C'est dans la lignée de cette pionnière de la cause féministe, pourrait-on dire, que s'inscrit Louise Labbé. Christine de Pizan n'est pas la seule à s'être saisie ainsi de sa plume en dépit du regard des autres. Marguerite de Navarre, née Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier, a également publié quelques années avant Louise Labbé plusieurs ouvrages, dont un livre d'abord condamné par la faculté de théologie de Paris intitulé « Le miroir de l'âme pécheresse » paru en 1531. Deux ans avant sa mort en 1547, elle a aussi fait publier par Jean de Tournes un recueil de ses œuvres poétiques ayant pour titre « Les Marguerites de la Marguerite des Princesses ». Mais contrairement à Louise Labbé, la reine Marguerite de Navarre bénéficia longtemps d'un soutien et d'une protection de taille en la personne du roi de France, son propre frère. L'œuvre de Louise Labbé apparaît, quant à elle, d'autant plus remarquable que rien ne prédestinait une Cordière à écrire. Ça, vous l'avez compris. Le mythe de la belle Cordière, justement, que l'on associe traditionnellement à l'image d'une courtisane, est né en partie de la teneur de ses textes. Outre les 24 poèmes hommages qui lui sont adressés, dont je vous ai déjà parlé, l'ouvrage de Louise Labbé se divise ainsi en trois parties. Un discours en prose intitulé « Débat de folie et d'amour », suivi de trois élégies, ses longues complaintes poétiques en vers, et enfin de 24 sonnets composés en français ou en italien. 24 poèmes courts et enflammés qui ont beaucoup joué dans la réputation sulfureuse de Louise Labbé. Vous vous rappelez les quelques vers du plus tôt. En voici un autre exemple, le premier quatrain du sonnet 3 cette fois.
Depuis qu'amour cruel empoisonna premièrement de son feu ma poitrine, toujours brûlée de sa fureur divine, qui un seul jour mon cœur n'abandonna.
Les fameux premiers vers du sonnet 7 ne sont pas non plus étrangers au fantasme que suscite le nom de Louise Labbé.
Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'est est trop molle, est trop dure, j'ai grand ennui entremêlé de joie.
Ni le premier quatrain de son 23e sonnet, dans lequel on aimerait lire une confession de la poétesse.
Ne reprenez, dame, si j'ai aimé, si j'ai senti mille torches ardentes, mille travaux, mille douleurs mordantes, si en pleurant j'ai mon temps consumé, las, que mon nom n'en soit pas par vous blâmé.
Tirer des conclusions du contenu de ces poèmes reviendrait toutefois à oublier que le sujet « je » d'un texte poétique ne désigne pas nécessairement son auteur. Le lyrisme de Louise Labbé et le contenu de ses textes ne prouvent en rien l'existence réelle de tel ou tel amant, bien que son dialogue poétique avec son contemporain Olivier de Magny a pu ou a fait supposer à certains qu'ils entretenaient une relation, voire même qu'Olivier de Magny aurait signé certains des vers attribués à Louise Labbé. Un argument parmi d'autres pour discréditer la poétesse dont même les éditeurs ont douté du réel talent à travers les siècles. Au XIXe siècle notamment, cette suspicion quasi systématique que nourrissent les hommes à l'égard des femmes de lettres n'épargne ni les Cordières ni les reines, puisque Marguerite de Navarre en a fait aussi les frais. L'éditeur Prosper Blanchemain, qui republie aussi en 1875 les œuvres complètes de Louise Labbé, ne doute pas que la sœur de François Ier ait écrit elle-même ses vers, les jugeant, je cite, « assez médiocres pour cela ». Quant à la belle Cordière, il ne l'imagine pas avoir signé seul ses poèmes. Il voit dans les quatrains du sonnet 2 de Louise Labbé, commençant par « Oh, beaux yeux bruns, oh, regard détourné » et identique à ceux d'Olivier de Magny, la seule main du poète est justement la preuve qu'ils étaient amants. Cette légende coriace d'une Cordière lettrée aux mœurs légères tend parfois à faire oublier la véritable modernité et la qualité des textes de Louise Labbé. Au-delà des sonnets qui sont plus dans l'air du temps car il s'agit de la nouvelle forme poétique à la mode depuis 1530 et même des élégies qui s'inspirent de la littérature antique et sont au goût de l'époque, son débat de folie et d'amour véhicule les valeurs humanistes de la Renaissance. plus pointu, exigeant, ce texte savant, teinté d'humour, retient d'ailleurs davantage l'attention des lecteurs au XVIe siècle. Divisé en 5 discours, il décrit de façon allégorique le conflit entre passion et désir, en imaginant une dispute entre les dieux folie et amour, puis la défense de l'un et de l'autre auprès de Jupiter par Mercure et Apollon. C'est folie qui, dans le texte, rend le jeune Cupidon aveugle pour se venger de la flèche qu'il a tenté de lui décocher, puis lui bande les yeux. Folie bande amour et lui met des ailes, écrit Louise Labbé.
Et restez bien avec nous sur Europe 1. Stéphane Bern nous raconte la suite et la fin du destin de Louise Labbé, la légende de la poésie, avant de retrouver l'invité d'Historiquement Vôtre de ce vendredi 26 avril, la chercheuse Élise Rachenbach. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 15h-16h, Historiquement Vôtre.
Bonjour, c'est Virginie Giraud sur Europe 1. Ce week-end, je vous entraîne au cœur des grands procès de l'histoire. Galilée, condamné pour avoir osé dire que la Terre tourne autour du Soleil. Jeanne d'Arc, brûlée vive pour sorcellerie alors qu'elle a sauvé la France. Al Capone, emprisonné à Alcatraz pour ne pas avoir payé ses impôts.
Au cœur de l'histoire, week-end spécial Grand Procès.
Je vous attends demain et dimanche à 15h sur Europe 1 et quand vous voulez en podcast sur toutes les plateformes, le site et sur l'appli Europe 1.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez Savazza et laissez-vous étonner par ces dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à demain, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-Er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps à découvrir dès maintenant au musée Guimet avec Europe 1.
Europe 1,
15h, 16h,
Historiquement Vôtre.
Historiquement Vôtre, la suite sur Europe 1 où la vie et l'œuvre de la poétesse du XVIe siècle, Louise Labbé, dont la légende coriace d'une cordière lettrée aux mœurs légères, tend parfois à faire oublier la véritable modernité et la qualité des textes publiés en 1555 en 24 sonnets, 3 élégies et un discours savant en prose qui imagine une dispute entre les dieux de la mythologie folie et amour, puis leur défense respective par Mercure et Apollon.
À l'issue des 2 plaidoiries divines, Jupiter rend son jugement sous la plume de la poétesse. Il demande à Folie et Amour de vivre aimablement ensemble et guidera Folie l'aveugle Amour et le conduira partout où bon lui semblera, conclut-il. Cette réflexion fine de Louise Labbé sur la nature de l'amour, qui prône par ailleurs une liberté chère à l'humanisme, demeure moins connue de nos jours, mais élève pourtant la poétesse au rang de figure majeure de la littérature renaissance. Louise Labbé s'inscrit dans une époque littéraire et un âge d'or lyonnais qui déclineront en même temps qu'elle, à mesure que la réforme protestante et le conflit avec l'Église catholique diviseront le royaume de France et que les épidémies de peste endeuilleront les villes. Quand la première guerre de religion éclate en 1562 sous la régence de Catherine de Médicis, Lyon est une ville majoritairement protestante. La cité n'est pas épargnée par les violences, mais on ignore où se trouve alors Louise Labbé. Peut-être s'est-elle réfugiée dans l'une des propriétés qu'elle a acquises aux alentours de Lyon. Le 28 avril 1565, en revanche, c'est dans la maison de son ami florentin Tommaso Fortini, un riche banquier de la ville, qu'on a également supposé d'être son amant, que Louise Labbé signe son testament. La poétesse côtoyait dans son quartier de la rue Notre-Dame de Confort une large communauté italienne venue de Florence qui se réunissait à l'église Notre-Dame de Confort. Ces liens étroits l'ont sans doute aidé aussi dans la publication de ses œuvres. Quand elle disparaît, Louise Labbé est certainement veuve. On ignore si elle a autrefois eu des enfants, car ses héritiers universels sont ses 2 neveux. Contrairement à sa date de naissance, celle de son décès est connue. La poétesse meurt en février 1566, puis est inhumée à Parcieux, au nord de Lyon, où elle possédait une résidence. Au siècle suivant, sa poésie sera relativement oubliée, puis son œuvre peu à peu rééditée au XVIIIe et XIXe siècle. Si son surnom de Belle Cordière sera progressivement utilisé, puis effacé des pages de titres de ses rééditions, il ne disparaîtra jamais vraiment des mémoires. Au sujet de Louise Labbé, la légende se confond toujours un peu avec l'histoire. Ses œuvres complètes ont fait leur entrée dans la bibliothèque de la Pléiade. En 2021, sous la direction de Mireille Huchon, plus de 4 siècles et demi après leur première édition. Preuve, s'il en fallait une, que Louise Labbé fait définitivement partie du patrimoine littéraire français.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Louise Labbé, la légende de la poésie, dans Historiquement vôtre sur Europe 1, Stéphane Bern reçoit Élise Rachenbach, maîtresse de conférences en littérature française de la Renaissance.
Élise Rachenbach, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1.
Merci pour votre invitation.
Et Louise Labbé doit être lue et faire parler, notamment pour la dimension féministe de son œuvre. Cette œuvre, c'est un appel aux femmes, c'est un appel à la sororité, diriez-vous ?
Oui, comme vous l'avez rappelé, hein, l'épître à Clémence de Bourges qui ouvre les œuvres est une épître qui chante l'avènement d'une nouvelle ère pour les femmes qui peuvent désormais accéder à l'éducation. Et Louise Labbé demande effectivement à la jeune Clémence de Bourges et plus largement à l'ensemble des dames aptes à écrire de s'adonner à l'étude et aux lettres afin de dépasser ce piètre exemple qu'elle propose en premier lieu. Donc ça, effectivement, c'est un premier élément qui peut faire lire l'œuvre de Louise Labbé comme une œuvre proto-féministe. Et par ailleurs, effectivement, l'ensemble de l'œuvre appelle d'une part à l'indulgence des femmes, puisqu'elles aussi, un jour, connaîtront probablement les affres de l'amour, et réclame une forme d'indulgence, de bienveillance mutuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle effectivement aujourd'hui une forme de sororité.
Élise Rachenbach, vous êtes donc l'autrice de Louise Labbé, La rime féminine, parue aux éditions Calypse. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontée lors de cette entreprise biographique ?
Eh bien, je dirais les mêmes difficultés que celles qu'on rencontre en général quand on tâche de reconstituer la vie des autrices et des auteurs qui ont vécu il y a si longtemps, ici presque 5 siècles, puisque d'une part, on n'a pas d'état civil à l'époque, et puis d'autre part, eh bien, la morsure du temps fait qu'on perd énormément de documents. Et difficulté supplémentaire quand on s'occupe d'une femme, eh bien, c'est que les femmes demeurent, de manière générale, plus dans la sphère privée, ne serait-ce que parce que aussi les femmes sont d'éternelles mineures, sauf éventuellement quand elles deviennent veuves, et donc elles sont sous la tutelle de leur père puis de leur mari, de telle sorte qu'elles sont également susceptibles de laisser moins de traces dans les archives. Et puis, dernier point, en ce qui concerne Louise Labbé et les femmes en général, eh bien, les études historiques progressent constamment, mais on connaît quand même encore moins l'histoire des femmes pour le XVIe siècle, notamment en ce qui concerne l'éducation. Mais en même temps, il faut bien admettre que depuis quelques années, concernant Louise Labbé, de nombreuses sources ont été exhumées. Et finalement, c'est un travail qui s'est avéré plus facile que celui de la précédente biographe de Louise Labbé, Madeleine Lazard, qui a publié une excellente biographie il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, puisque finalement, on a pu, notamment les éditeurs récents, Michel Clément et Michel Jourde, ont exhumé de nombreux documents d'archives. Je pense en particulier à tous ces documents qui montrent les activités de femmes d'affaires de l'abbé, ou bien un certain nombre de documents aussi qui concernent sa famille.
Il y a, écrivez-vous, un mystère, Louise Labbé. En effet, j'ai évoqué dans mon récit une idée qui s'est répandue, selon laquelle cette autrice serait en fait une imposture littéraire. Dans quel contexte cette hypothèse émerge-t-elle ? Au fond, de quand elle date ?
Alors, la première formulation explicite d'un doute date du 19e siècle. Mais on lit parfois une première esquisse à la toute fin du XVIe siècle. Il me semble qu'en tout cas, cette esquisse relève plutôt d'un contresens. Il s'agit d'un historien à la fin du XVIe siècle, en 1584, qui, commentant le peu de jugement des femmes concernant le choix de leurs amants, prend pour exemple ce qui est dit dans le débat de folie et d'amour de Louise Labbé, qu'il assimile déjà une courtisane. Et il dit que cette œuvre centre au mieux l'érudite gaillardise de Maurice Sève, donc grand poète de l'époque à Lyon, que d'une simple courtisane. Il s'agit plus, à mon sens, d'une manière de souligner ici le caractère exceptionnellement savant de cette œuvre, plutôt qu'un déni de maternité. En revanche, effectivement, au XIXe siècle, c'est Prosper Blanchemain qui émet l'hypothèse d'une plume partagée avec Olivier de Magny, et qui s'appuie en fait ici sur, on va dire, un certain nombre de biais, d'a priori, qu'on voit très largement prospérer au XIXe siècle, qui est un siècle de pudibonderie, et qui est un siècle qui ménage très peu de place aux femmes, en fait, a fortiori si elles souhaitent advenir sur la scène littéraire. Mmh. On pense à quelqu'un comme George Sand.
Mais est-ce que le cas de Louise Labbé est isolé? Est-ce qu'on a vu dans l'histoire d'autres femmes de lettres se voir désattribuer leur œuvre ou être suspectées de les avoir écrites collectivement et surtout avec un homme?
Tout à fait, c'est un cas relativement classique. On pense pour le siècle qui suit, au XVIIe siècle, on pense à des autrices comme Madeleine de Scudéry, qui aurait écrit sous la pression de son frère et sous les commandes de son frère, qui serait elle aussi l'auteur d'une bonne partie de l'œuvre actuellement publiée sous son nom. On pense également au cas de Madame de Lafayette, dont on a voulu faire l'élève de La Rochefoucauld, et finalement La Rochefoucauld a eu une large part dans la rédaction de ses œuvres. On pense aussi à quelqu'un qui est peut-être moins connu du grand public, mais qui est une figure intéressante, Madame de Villedieu, Catherine Desjardins, qui au XIXe siècle est présentée comme une prostituée alcoolique qui aurait écrit en fait en collaboration avec ses nombreux amants collaborateurs. Donc c'est vraiment un cas en fait d'école que celui de Louise Labbé et qui rejoint bien d'autres cas.
Mais justement pour cette réputation, je rebondis là, Élise Reichenbach, dans le cas de Louise Labbé, il y a aussi des suspicions quant à ses mœurs. La femme de lettres, autrice de poèmes d'amour, est réduite à cette image sulfureuse.
Oui, alors là aussi ça fait partie de ces stratégies d'invisibilisation des femmes autrices. On a trois grands axes, si je puis dire, qui permettent de réduire la place des femmes dans la création littéraire. Il y a effectivement la suspicion d'un prête-nom ou d'une co-auctorialité sous l'égide, sous la férule d'hommes de valeur. Ça, c'est le premier point. Mais il y a deux autres éléments. Celui d'une façon de sentimentaliser les œuvres. Elles sont là pour exprimer leurs émotions. C'est ce qu'on a fait avec Madame de Sévigné. Finalement, son œuvre serait moins... La qualité de son œuvre serait peu littéraire et ce serait surtout une manière pour elle de s'épancher. Et ça, on le trouve aussi chez Labbé, finalement. Et enfin, effectivement, le fait d'attaquer les mœurs. Et là, Louise Labbé, ayant le malheur de publier des textes extrêmement sulfureux pour certains, on se rappelle que la femme qui publie est une femme publique.
Cet après-midi, Historiquement Vôtre vous raconte Louise Labbé, la légende de la poésie. On continue d'en parler avec vous, Élise Reichenbach.
Et c'est sur Europe 1 dans Historiquement Vôtre. Excellent après-midi.
Europe 1, 15h-16h, Historiquement Vôtre.
Chez But, ils ont un secret pour faire la cuisine encore plus facilement. Ah si, c'est possible. Vous avez envie de savoir, Eh bien, tendez l'oreille.
En ce moment, chez But et sur but.fr, jusqu'à moins 30% sur une sélection de cuisine, plus la pause offerte et des offres de financement incroyables. Mais chut, ça reste entre nous. Conditions de l'offre en magasin et sur but.fr.
Enfin, au livre de poche, le thriller ésotérique du duo star Giacometti et Raven. Le Graal du Diable. 1944, des partisans anti-nazis terrorisent la région des Balkans. Tristan Marcas plonge de nouveau dans les coulisses occultes de la Seconde Guerre mondiale, en quête du Graal. Le Graal du Diable, de Giacometti et Raven, au livre de poche.
Vous écoutez Europe 1, excellent après-midi, vendredi, bientôt le week-end et lundi, ne ratez pas Europe 1 Soir. Nouvelle formule de 19h à 21h, présentée par Pierre Devineau. Europe 1 Soir, nouvelle formule, c'est 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée. Avec bien sûr des invités et les voix d'Europe 1. Le rendez-vous est pris Europe 1 Soir de 19h à 21h, présenté par Pierre Devineau. sur Europe 1.
Europe 1, 15h-16h,
Historiquement Vôtre.
Et aujourd'hui dans Historiquement Vôtre sur Europe 1 avec Stéphane Bern, on parle de Louise Labbé, la légende de la poésie, avec l'invité du jour, Élise Rachenbach, maîtresse de conférences en littérature française de la Renaissance à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne.
Élise Rachenbach, aujourd'hui, le fait que Louise Labbé, eh bien, l'auteur de poèmes amoureux, fait consensus au sein de la communauté scientifique. Pour comprendre dans quel contexte cette femme du peuple se tourne vers l'écriture, il faut s'intéresser à la Renaissance lyonnaise. Qu'est-ce qui caractérise Lyon durant cette période? Dans quel environnement, au fond, Louise Labbé évolue-t-elle?
Alors, vous l'avez déjà bien présenté dans votre récit. Hein, Lyon, c'est une ville frontière, puisqu'elle est sur le Rhône et la Saône. Elle est à la frontière de la Savoie, qui n'est pas française à l'époque. Elle est sur la route de l'Italie, où on va faire la guerre, mais d'où on importe également l'humanisme. C'est une ville où se tiennent 4 foires annuelles, qui est donc un lieu d'échange extrêmement riche de l'ensemble de l'Europe, puisque les hommes, les marchandises, les livres, les idées convergent alors à Lyon. C'est une place assez italianisante. Hein. Vous avez évoqué la présence des banquiers florentins. On a également d'autres nations italiennes, lucoises notamment, vénitiennes. Donc autant d'éléments qui offrent un environnement extrêmement propice au développement de l'humanisme. Et ce développement est évidemment soutenu également par la présence de l'imprimerie qui est très puissante à Lyon, hein, qui fait de Lyon l'une des capitales de la Renaissance française. Et ce d'autant plus que Lyon n'a pas d'université. Et ça, c'est un point très important par rapport à Paris, puisque ça signifie que les publications sont peut-être un peu plus libres et les idées circulent de manière également un peu plus libre, puisque la faculté de théologie peut être une force d'immobilisme.
Un mot cependant sur l'éducation de Louise Labbé. J'ai parlé un peu de mystère dans mon récit parce qu'il est probable que ses parents aient été illettrés. Comment peut-elle avoir eu accès au savoir? Comment a-t-elle pu apprendre à lire, à écrire, à maîtriser plusieurs langues? Quelles sont les hypothèses qu'on peut émettre à ce sujet?
Eh bien, c'est aussi ce que rappelle Labbé au début de l'épître à Clémence de Bourges. On est dans un moment de transition où l'accès aux études, ou en tout cas à l'enseignement, aux lettres, au savoir, semblerait facilité pour les femmes, en tout cas c'est ce qu'elle dit. Et l'éducation des filles, voilà, est à lire aussi comme une plus-value dans les familles, et notamment dans les bonnes familles, comme l'est la famille de Pierre Charly, hein, qui est un riche commerçant. C'est-à-dire que lorsqu'on souhaite marier sa fille, il est bon de lui apporter une dot, mais si en plus elle est bien éduquée et elle a un savoir, c'est quelque chose qui est très vendeur auprès du futur mari. Hein. On constate ce genre de stratégie, en particulier pour certaines autrices italiennes, et il est tout à fait possible que Louise Labbé ait bénéficié également de cette évolution. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en ce qui concerne l'éducation de Labbé, c'est un point effectivement qu'on connaît encore relativement peu, hein, l'éducation des femmes à la Renaissance. Mais Louise Labbé est loin d'être la seule femme éduquée. On a d'autres femmes, d'autres autrices dont on ne sait pas nécessairement grand-chose, mais qui laissent supposer des lectures et un savoir particulièrement poussé. On pense en particulier à une autre autrice qui a publié quelques années plus tôt, au début des années 1540, des œuvres également. Il s'agit d'Élisène de Crène, qui a une langue particulièrement savante et matinée de latinisme.
Mais sait-on qui lit l'œuvre de Louise Labbé au XVIe siècle? Qui d'abord peut se procurer ses écrits, et puis de quelle manière ils circulent? Visiblement bien, puisqu'il y a des rééditions.
Oui, visiblement, la réédition de 1556 chez le même imprimeur laisse supposer que la première édition s'est bien vendue. Il y a même des éditions pirates, hein, deux éditions pirates, c'est-à-dire non autorisées. Donc visiblement, il y a un marché. C'est difficile de savoir qui lit les œuvres et qui peut se les procurer. C'est un joli petit ouvrage, donc a priori, il coûte une certaine somme. C'est un ouvrage savant, donc il faut déjà aussi avoir un bagage intellectuel, hein, pour pouvoir le lire et l'apprécier. Il est possible qu'il y ait un premier cercle de lectrice. Hein. En tout cas, c'est l'horizon que dessine Louise Labbé à l'orée de ses œuvres. Mais la présence à la fin du recueil de cette couronne d'hommage des poètes hein, anonymes ou qui ont signé leur texte montre également qu'elle est lue de ses contemporains hommes et en particulier d'un certain nombre de poètes savants. Et puis, dernier point aussi qu'on peut évoquer à titre d'hypothèse, Louise Labbé se présente comme musicienne très régulièrement. Elle manie le luth dans ses poèmes. Elle dit qu'elle a appris la musique également dans l'épître à Clémence de Bourges. Or, très souvent, les poèmes qui sont publiés au XVIe siècle, dans ces années-là, ont d'abord ou parallèlement connu une diffusion musicale avant même parfois l'impression. Donc là, nous, on n'a pas de poèmes, de partitions conservées pour les poèmes de Louise Labbé. On en a en revanche pour une autre autrice lyonnaise, Pernette Duguillet, qui a publié, dont les œuvres pardon, ont été publiées de manière posthume 10 ans plus tôt chez le même imprimeur Jean de Tourne.
Un mot quand même, Élise Reichenbach, au XVIe siècle, comment désigne-t-on les femmes qui écrivent? On dit autrice, et puis visiblement, j'ai appris dans votre livre que la signature féminine était un argument de vente pour l'imprimeur lyonnais de Louise Labbé.
Oui, alors autrice, oui, c'est un terme ancien. Hein, on le trouve au moins déjà au XVe siècle. Donc c'est un terme qui ne pose absolument aucun problème pour désigner les femmes qui écrivent à cette époque. On a beaucoup de noms de métiers hein, qui sont féminisés. On a des peintresses, on a des libraires. Et effectivement, cette signature féminine, a priori, est une bonne manière de vendre ou d'attirer en tout cas le chaland, puisque les œuvres de Louise Labbé s'inscrivent dans deux genres qui marchent assez bien à l'époque. Hein. D'une part, le dialogue humaniste, inspiré d'Érasme, hein, le dialogue de folie et d'amour, le débat de folie et d'amour, met en scène le personnage de folie qui a déjà été mis sur la scène littéraire par la grande star de l'humanisme européen qui est Érasme. Et puis d'autre part, hein, la partie poétique de l'œuvre, qui s'inscrit ici dans une véritable mode de l'époque, en particulier à partir des années 1550, et qui est portée par la jeune génération de ce qu'on appelle la Pléiade, hein, Ronsard, du Bellay, le modèle des amours, c'est-à-dire un poème amoureux à la manière de Pétrarque, un recueil de poèmes amoureux consacré à une femme. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que pour sortir du lot, eh bien, on a une femme. On a un nom de femme, donc on fait du neuf avec quelque chose qui commence déjà à être pas mal galvaudé. Et puis à Lyon, on a cette particularité féminine, hein, ça permet à Lyon de se positionner aussi comme lieu spécifique, exceptionnel, d'inspiration italienne, encore une fois, hein, la présence des femmes c'est très italien, et donc de se singulariser par rapport au reste du royaume.
Dans quelle mesure est-ce que l'œuvre de Louise Labbé est encore étudiée aujourd'hui? Et de quelle manière ses écrits peuvent-ils résonner?
Eh bien, elle est pas mal étudiée, hein, ne serait-ce que parce que cette année, Louise Labbé figure au programme des agrégations de lettres, hein, des trois agrégations, lettres modernes, classiques, grammaire. Elle avait déjà été au programme de l'agrégation dans les années 2000. Moi, c'est une œuvre que j'ai donnée à l'époque où j'enseignais dans le secondaire, alors pour la partie poétique, à mes élèves, et ça marchait extrêmement bien. Et c'est une œuvre qu'on donne régulièrement aussi hein, à nos étudiantes et étudiants en licence, et qui parle beaucoup, au-delà même des textes poétiques qui sont plus directement accessibles, des bas de folie et d'amour, avec toute son irrévérence, tout son humour, et particulièrement... attire particulièrement le succès. Et c'est un texte qu'on trouve également hein, auprès dans des cercles, au-delà des cercles d'éducation. J'ai eu le plaisir de découvrir tout le travail de mise en chanson moderne, hein, à la manière moderne ici, sur des musiques modernes, effectué par une compositrice et chanteuse contemporaine, Agnès Guipon, qui propose hein, de faire résonner les textes de Labbé prononcés comme aujourd'hui sur une musique d'aujourd'hui et qui en montre toute l'actualité.
Merci beaucoup Élise Reichenbach de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Louise Labbé, la légende de la poésie. Je rappelle que votre livre Louise Labbé, la rime féminine est disponible aux éditions Calibre. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et avec Stéphane Bern, l'histoire continue lundi sur Europe 1.
Lundi, on sort le champagne. Ah. Sans raison, pour le plaisir uniquement. Et le plaisir surtout de vous raconter Lily Bollinger, une dame dans le champagne. D'ici là, beau week-end sur Europe 1. Demain et dimanche, à la même heure, c'est Virginie Giraud qui a donné vie au vers de Louise Labbé dans le récit aujourd'hui. Vous l'avez reconnu. Virginie qui vous donne rendez-vous au cœur de l'histoire. À lundi.
À lundi Stéphane, et votre week-end qui démarre comme chaque vendredi dès 16h avec Sophie Davant. Sophie et les copains de 16h à 18h sur Europe 1. Bonjour Sophie.
Bonjour Géraldine.